Il est 9h40, l'instant M, c'est parti, profitez-en.
Merci d'être avec nous ce soir.
Peu de gens connaissent Claude Perdriel, industriel fortuné qui a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour créer et faire vivre des journaux. Le Nouvel Observateur, c'est lui. Le Matin de Paris, c'est lui. Challenge, c'est lui. Une figure clé dans l'histoire de la presse française, dans l'histoire aussi de la gauche et des intellectuels d'après-guerre. Son portrait est celui d'une génération qui s'est ruée sur la vie, qui a tout reconstruit et qui a mené François Mitterrand au pouvoir. Bonjour Marie-Dominique Lelièvre.
Bonjour.
Claude Perdriel fut un jour votre patron, mais on connaît rarement son patron. Vous avez enquêté et publié un livre dont la colonne vertébrale est le bonheur. Jazz, femmes et politique. D'abord, les news de l'instant M, et puis Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Alors, Big Malion, révélation, et après.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
À lire ce matin dans les Échos, interview de l'un des patrons de Facebook en Californie. Le réseau modifie officiellement sa politique de filtrage des photos lorsqu'il s'agit de clichés historiques. Facebook s'est en effet fait épingler la semaine dernière pour avoir bloqué l'image célèbre de cette petite fille. Vous la connaissez tous, cette petite fille courant nue dans un Vietnam bombardé au napalm. Eh bien, Facebook avait bloqué cette image, la mettant alors sur le même plan qu'une image pédopornographique. Bah oui, voilà. L'affaire a fait le tour du monde. À partir de maintenant, ça va changer. Alors, Bruno, jeudi, vous avez regardé le 20h de France 2 qui diffusait une partie de la fameuse enquête d'envoyé spécial consacrée à l'affaire Big Malion. Ça vous a donné envie d'évoquer ce matin les limites de l'investigation à la télévision.
Oui, Sonia, vous le savez, hein, on a beaucoup entendu parler de ce document qui a agité les plus hautes sphères de France Télévisions. Toutefois, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il faut tout de même que je commence par vous raconter ce qu'il y avait dedans. Figurez-vous que France 2 a réussi à obtenir le témoignage exclusif d'un certain Franck Attal, ex-directeur de la filiale événementielle de Big Malion. À ce titre, Franck Attal a donc organisé tous les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012 et il accuse Sarkozy et son équipe d'avoir maquillé les comptes de sa campagne. Écoutez, par exemple, ce qu'il dit de l'ancien trésorier de l'UMP, Jérôme Lavrieux.
Jérôme Lavrieux me dit, écoute, on a un sujet, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de meetings, plus que prévu, et on a un plafond dans les comptes de campagne qui va être très vite atteint, et donc on va pas pouvoir continuer comme ça.
Voilà, en d'autres termes, dans ce reportage, Franck Attal balance. Il raconte comment il a été sommé par l'UMP de faire pour 18 millions d'euros de fausses factures, et il explique surtout que Nicolas Sarkozy a approuvé ses comptes et qu'ils avaient tous les deux des rapports très étroits.
On s'est croisé 45 fois sur les meetings, il m'a suivi 45 fois pas à pas pour retrouver son pupitre.
Le problème, c'est que quand on parle de Franck Attal à Nicolas Sarkozy, eh ben voilà ce qu'il répond.
Je ne connais pas Monsieur Attal.
Bref, France 2 a fait un travail remarquable. Le témoignage d'Attal est édifiant, mais les choses s'arrêtent là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de confrontation entre Attal et Sarkozy. Or, la confrontation, c'est ce qui manque cruellement à l'investigation à la télévision. Dans le cadre d'une enquête, les hommes politiques, les puissants n'acceptent jamais d'être confrontés à ceux qui les accusent. Pourtant, Attal, lui, il serait d'accord et il l'a dit.
Je suis prêt à m'expliquer avec Nicolas Sarkozy soi-même sur un plateau de télé et qu'on défende argument contre argument. Moi, ces gens-là ne me font pas peur.
Alors, j'ai une petite proposition à faire à France 2. Dans Cache Investigation, Élise Lucet s'est fait pour spécialité d'aller cueillir ceux qu'elle met en accusation à la sortie de leur bureau ou dans des réunions publiques. C'est très impoli, normalement ça se fait pas, et pourtant c'est journalistiquement extrêmement productif. Il y a 10 ou 15 ans, personne n'aurait osé faire des choses pareilles à la télévision, et ce sont nos confrères anglo-saxons qui nous ont inspiré ces méthodes. Après-demain, jeudi, Nicolas Sarkozy sera l'invité de la nouvelle émission politique de France 2. Qu'est-ce qui empêche France 2 d'inviter Franck Attal et de le confronter à Nicolas Sarkozy, de leur coller dans les pattes ? La politesse ? Les traditions ? Les conventions ? Et si France 2 décidait brutalement de s'asseoir dessus ? Ça serait amusant, inédit et surtout, ça ne devrait absolument pas faire peur aux gens comme Nicolas Sarkozy qui répète à l'envi
« Nous n'avons pas peur car nous nous sentons forts ».
Voilà, on leur jette donc l'idée et on leur dit « chiche ».
Nous nous sentons forts. Je crois que c'est la phrase de la journée. Merci Bruno. Marie-Dominique Lelièvre, votre portrait de Claude Perdriel s'intitule « Sans oublier d'être heureux » et il paraît chez Stock.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors la série d'entretiens que vous a accordé Claude Perdriel date d'une période clé, 2014. Il négocie alors la vente de son journal. D'ailleurs son temps est compté, il en a peu à vous accorder. Son journal, c'était le Nouvel Observateur. Il a choisi comme repreneur ceux qui viennent de racheter Le Monde. Il brade en réalité ce journal qu'il n'aime plus, ni le journal, ni les journalistes. Or c'est l'amour qui a forgé la vie de Claude Perdriel, amour des femmes, des lettres, de la politique et du jazz.
Vous entendez actuellement le quintet de Tad Damon et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop.
Ce 8 mai 1949, écrivez-vous, Perdriel écoute sur Paris Inter Tad Damon et Miles Davis. Il danse, enfin il danse, il a 23 ans. Claude Perdriel, c'est l'homme sans trace. Je vous cite Marie-Dominique Lelièvre, son enfance est une case vide. Vous qui avez écrit moult biographies, vous avez parfois à décortiquer, à déconstruire le storytelling, la légende que quelqu'un s'est fabriquée. Là, vous êtes en face d'un homme sans passé.
Oui, c'est exactement l'exercice inverse de celui que je mène habituellement. Et c'est-à-dire que je suis face à un homme qui non seulement n'a pas de passé, mais n'a pas d'archives et qui est à peu près incapable de me donner des éléments fixes dans sa trajectoire.
Et que ça n'intéresse pas.
Et que ça n'intéresse pas. Et qu'en plus, je force à je le force à revenir en arrière alors que c'est un homme qui n'aime qu'aller de l'avant. Alors, il avait quand même, heureusement, il y a des femmes dans la vie des hommes et des femmes qui conserve et sa femme m'a remis quelques cahiers d'écolier et quelques diplômes, quelques éléments qui ont été la base de ma recherche. Et puis en France, on a des archives extrêmement bien tenues, on retrouve beaucoup de choses.
Alors ça vous permet de remonter à l'enfance de Claude Perdriel, une enfance déchirée. Son père est un homme déchu, ruiné par la crise de 29, abandonné par sa femme. Sa mère, qui est vraiment le personnage clé, la figure majeure du début de votre livre, se remarie. C'est un remariage bourgeois. Elle n'aura de cesse d'éloigner ses fils.
Oui, il a une enfance vraiment très particulière et en même temps, il est vraiment un enfant français. C'est-à-dire que son père est un soldat de la guerre de 14 qui a fait une très longue guerre. Il a fait 6 ou 7 ans de guerre, son père. Et il est rentré, c'est un voilier du Havre. La famille de Claude Perdriel est originaire du Havre et il vendait des voiles pour les navires. Il est rentré brisé par la guerre. Il a vendu les actions de sa société familiale et il a tout réinvesti au moment de la crise de 29. Donc il a été ruiné et Claude Perdriel grandit avec cette image de père très abîmé. Il est élevé par une femme qui divorce, ce qui dans les années 30 est extrêmement...
Mais une femme d'une sévérité proche du sadisme, c'est ce que vous écrivez, une femme cassante, une femme humiliante, une femme qui va passer toute l'enfance de ses deux fils à les éloigner dans des pensionnats dans lesquels ils vivront une détresse terrible et dont ils garderont des séquelles psychologiques et physiques. C'est presque en vous lisant... une forme d'enfance, comment dire, à la Modiano, mais chez les bourgeois.
Oui, et lui, c'est en effet un enfant qui grandit dans un univers bourgeois, mais sans bénéficier du confort de la bourgeoisie. Par exemple, dans la maison familiale, il a une chambre, mais à l'étage des domestiques. Et une chambre qui est entièrement nue, chambre qui est dépeinte d'ailleurs par l'écrivain Jacques Brenner plus tard, qui fait la connaissance des deux frères Perdriel à cette époque-là. Il a en effet, bon, mais c'est très difficile de comprendre comment une femme peut être aussi dure, aussi sévère. Mais c'est bon, c'est aussi une autre période. Je pense que cette femme avait à cœur de montrer que ses fils étaient bien élevés, que ses fils étaient rentrés dans le rang, en quelque sorte.
Rentrés dans le rang. Et du coup, il se forge là un rapport à tout ce qui est matériel, très particulier, tout à fait hors du commun. Un rapport à la bourgeoisie, aux intérieurs bourgeois, pleins de vitrines et de petits objets. Un rapport à tout ce qui est possédé, aux choses. choses. Comme le dit Jacques Brenner, justement, cet écrivain, il donnait l'impression d'aimer les choses en passant. C'est quelqu'un qui a intériorisé ce dénuement. C'est quelqu'un qui n'a jamais, jamais rien souhaité garder et posséder.
Oui, une gardienne ne possède rien. Et d'ailleurs, Brenner le dépeint, c'est un homme qui donne tout ce qu'il a. Il donne, il lit un livre, il le donne. Il achète un album, il le donne. Il achète un nouveau chandail, il donne l'ancien. Enfin, voilà, il a... Et même aujourd'hui, chez lui, où évidemment il a les moyens de s'acheter ce qu'il veut, il habite un intérieur très dépouillé. C'est très curieux pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Parce que quand je l'ai rencontré les premières fois, c'était dans son propre bureau, un bureau qu'il occupait depuis chez lui, hein, son bureau personnel, chez lui depuis une dizaine d'années. Et j'avais l'impression qu'il venait d'emménager, en fait. Il n'y avait pas de traces.
On va l'écouter, Claude Berdriel. Il y a, au-delà de ce rapport aux objets, son rapport à l'argent.
J'ai des rapports avec l'argent un petit peu particuliers. Ça m'a jamais paru une chose sérieuse, l'argent. Il y a tellement de choses plus importantes que l'argent. C'est une chose d'ailleurs que j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre quand je lis les journaux. Pourquoi est-ce que ces gens si riches veulent toujours avoir 1 milliard de plus, 100 millions de plus? Mais à quoi ça leur sert d'avoir 1 milliard de plus ou 100 millions de plus? Ça m'a toujours paru bizarre.
La voix de Claude Perdriel qui approche les 90 ans. Claude Perdriel a mené une vie très dispendieuse que vous racontez. C'est passionnant parce que là aussi c'est toute une époque, c'est une forme de jet set, une passion de jeunesse pour les bolides, pour les sports mécaniques. Il loue des villas à Saint-Tropez, dès très jeune. Hein. Très tôt dans la vie, il n'a pas d'argent mais il sait en gagner. Il s'offre des jouets splendides, racontez-vous. Marie-Dominique Lelièvre, et ça donne le vertige quand on lit ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui réinvestit tous ses gains. Vous racontez l'histoire de quelqu'un qui, toute sa vie, a fait de l'argent avec autre chose que la presse et qui a mis cet argent dans la presse.
Oui, ce qui est très étonnant, c'est que bon, la société de Claude Perdriel, c'est la SFA. Il a créé une entreprise. C'est un inventeur, c'est un ingénieur, c'est un polytechnicien. Et il a créé cette entreprise qui vit de ses inventions. Et sa première invention a été un objet que tous les Français connaissent, qui est le Sani Broyeur, qui reste aujourd'hui une de ses premières ventes et qui est exportée dans le monde entier. Et puis il y a eu plein
d'autres. Donc vous précisez bien, c'est quelqu'un qui, contrairement au Dassault, au Pinot, au Bouygues, au Niel, ce n'est pas un capitaine d'industrie qui vit de l'argent public. Ce n'est pas un oligarque.
Ah non. Il n'avait pas d'argent lorsqu'il a débuté et toute sa fortune, il l'a créée lui-même. Il l'a créée donc grâce à ses inventions. Il a une autre invention en ce moment que dont on parle beaucoup, qui est la douche qui n'est magique. Donc il a toujours des inventions comme celle-là auxquelles il donne des noms. Et son argent, s'il ne l'avait pas dépensé dans les journaux, il serait aujourd'hui en tête du classement challenge des plus grosses fortunes de France.
Mais c'est ça qui est passionnant, parce que dans ce rapport à l'argent, c'est à tous les niveaux. Par exemple, après 1981, le nouvel Ops va être très critiqué, va perdre de sa superbe, et il y a une période où il va perdre énormément d'argent. Alors, vous racontez une séquence incroyable, Perdriel fait venir Alain Minc et Jean Perlevade, ils auditent le journal et ils préconisent de couper, réduire les dépenses, économiser sur tous les postes et virer 45 journalistes. Claude Perdriel, lui, reste très silencieux et il conclut, je vous lis, « Parfait, eh bien je vais embaucher, augmenter la pagination, passer à la quadricromie et accroître le budget marketing. Face à une crise, si on économise, on s'enfonce, c'est quand on n'a plus rien qu'il faut investir. »
Oui, alors ça, c'est vraiment la grande leçon pour moi de cette rencontre avec Claude Perdriel. Ça a vraiment changé mon regard sur la crise et sur ce que je peux entendre. Et l'autre jour, Michel Combes,
patron de SFR, invité de Patrick Cohen,
disait exactement l'inverse. Il disait, on va licencier, mais oui, on va faire comme tout le monde. Ben non, justement, Claude Perdriel a toujours fait l'inverse. Il l'a fait dans ses journaux, mais il l'a fait aussi dans ses entreprises industrielles. Et il a bien fait, parce que sinon, la SFA n'existerait plus. Au moment où, par exemple, les Chinois sont arrivés avec des douches pour étudiants à très bas prix qui ont inondé le marché avant d'inonder les voisins. Lui, il a réinvesti de manière très importante dans ses usines, il a automatisé et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il réalise avec ses produits des chiffres d'affaires très importants et il n'a licencié personne. Donc, c'est vraiment ça, c'est investir et ce moment, justement, où il se trouve face à Perlevade et Minc, qui est très intéressant parce que eux, ce sont des hauts fonctionnaires ce sont, pour lui, ce sont pas des entrepreneurs. Lui, mm-hmm. il est dans l'entreprise, il est sur le terrain, et c'est quelque chose qu'il a pratiqué toute sa vie, justement. Investir, investir, investir.
Alors, c'est un patron, et en même temps, il fait parfaitement la différence entre ce qu'est un patron et ce que ne doit pas être un patron de presse, ou le patron très particulier que doit être un patron de presse. Et là, vous faites très bien le rapprochement avec les nouveaux grands groupes qui se forment aujourd'hui autour d'un Patrick Drahi, autour d'un Vincent Bolloré, où un patron reste un patron. On écoute à nouveau Claude Perdriel.
Le rôle d'un directeur de journal, c'est pas d'être patron au sens habituel du terme. Le directeur de journal, il a peut-être un œil sur tout, mais il doit créer les conditions pour que le talent et la qualité puissent vivre et exister à l'intérieur du journal. En d'autres termes, c'est plutôt, pardonnez-moi le mot, un accoucheur qu'un patron.
Il le précisera également dans cette interview. Lui dit « Mon rôle, c'est de faire des journalistes des vedettes ». Et là aussi, c'est passionnant d'entendre ça et de vous lire, Marie-Dominique Lelièvre, à l'heure où aujourd'hui les grands capitaines d'industrie mettent la main sur les chaînes de télévision, sur les rédactions et sur les journaux régionaux et nationaux. Il y a une petite ambiguïté dans son rapport au pouvoir, c'est-à-dire que vous dites que c'est quelqu'un qui a toujours joué collectif, qui a entretenu une relation extrêmement ambiguë, on va y venir avec Jean Daniel, qui était l'âme rédactionnelle du Nouvel Obs, et en même temps vous dites « Un bon journal est dirigé par un dictateur ».
Oui, alors dans le dictateur d'ailleurs, oui, parce que il faut que quelqu'un, si vous voulez, les Claude Perdriel et Jean Daniel, ils appartiennent à la grande histoire de la grande presse. C'est quand les journaux étaient portés par des figures, des personnalités d'exception, et que ces journaux étaient portés par des combats. Donc le combat, il faut bien que quelqu'un le mène, il faut bien qu'il y ait une ligne éditoriale.
Et ça, c'est quelque chose que vous écrivez sans cesse, c'est-à-dire qu'il est de la génération qui a fait de la presse pour changer le monde, pas pour vendre des journaux.
Exactement, c'est un homme engagé. Et cet homme engagé, il croit en la justice sociale et il agit. Il y a l'action, c'est pas simplement un homme de gauche qui ferait des déclarations lénifiantes, il y a l'action. Et les journaux de Claude Perdriel, ceux que j'ai dépeints dans le livre, alors notamment le matin, c'est un journal qui a été créé pour porter la gauche au pouvoir, et c'est un journal qui donnait une grande place à toutes les initiatives. Par exemple, il y avait des papiers entiers sur les initiatives réformistes, sur toutes les manières de changer la société, sur toutes les expériences, toute l'expérimentation des années 80. Elle était dans les pages 70, plutôt d'ailleurs, dans les pages du matin.
Et dans cette relation à la politique et à l'engagement, vous dites d'ailleurs que Claude Perdriel est plutôt à mettre du côté des mendécistes et de cette école-là de la gauche, que c'est par lucidité, par pragmatisme qu'il s'est rallié à François Mitterrand, dont il a été le directeur de campagne en 75. Et là aussi, il y a une relation à la gauche qui s'est forgée dans ces années-là, qui s'est payée cher ensuite et qui est passionnante.
Oui, ça s'est payé très cher puisque ça lui a coûté, en clair, son journal. Ça lui a coûté le Matin de Paris et ça a causé aussi de grandes difficultés au Nouvel Observateur puisque le Matin a été tué par François Mitterrand et André Rousselet.
Dans des pages tout à fait palpitantes que vous racontez, ça n'a d'ailleurs jamais été raconté ailleurs.
Non, parce que Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, et la lune de miel a été très brève puisque le Matin de Paris et les équipes politiques, enfin de journalistes politiques du Matin de Paris ont critiqué la politique menée par Mitterrand, et bon voilà, le journal a disparu. C'est facile pour le pouvoir de faire disparaître un titre qui dérange.
Alors quand je disais tout à l'heure que la colonne vertébrale de votre livre, sans oublier d'être heureux, qui paraît chez Stock, c'est le bonheur. Eh bien, il y a tout un pan de la vie de Claude Perdriel qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais que je vous conseille. C'est son amitié avec William Klein. C'est ses histoires d'amour avec Françoise Sagan, avec Florence Malraux, avec Jeanne Moreau. Bref, c'est une très très belle image du bonheur qui vous a beaucoup ébloui. Merci beaucoup Marie-Dominique Lelièvre. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia Deville.